Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien. Au Capi Service, c'est tout le plaisir et pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro qui est la place de l'ingénierie dans le développement de la nation congolaise. Nous en parlons avec nos deux invités. On a d'abord dans ce studio Charles Midailonga. Bonjour Monsieur Charles.
Bonjour Marcel.
Voilà, merci d'être là. Vous êtes directeur général de l'agence congolaise de grands travaux et président de l'ONICIV, c'est l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo. Nous aurons également l'ingénieur Thérèse Kirongozi, promoteur de l'entreprise Women Technology. Voilà le premier sujet pour ce magazine. Et ensuite, on va parler de quoi servira la numérisation des contrats de bail en RDC. Voilà, Alain Goy est à la technique. Tati Mapoko réalise, coordonne ce magazine présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Et voilà, le monde célèbre demain 4 mars 2022 la journée mondiale de l'ingénierie. Pour bon nombre d'observateurs, l'ingénierie joue un rôle important dans les développements et les bien-être de l'humanité. Cependant, dans plusieurs pays du monde, parmi lesquels la RDC, les ingénieurs ont du mal à mettre les connaissances apprises et leurs compétences au service de la nation. Autre constat, on observe dans ce domaine une sous-représentation des femmes, malgré l'importance de l'ingénierie pour l'avenir du monde. Quelle est la place de l'ingénierie dans les développements de la nation congolaise? Je le disais, nous en parlons dans ce nouveau numéro du magazine Au Capi Service avec notre deuxième invité qui vient de nos régions dans ces studios, ingénieur Thérèse Kirongozi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel.
Vous êtes promoteur de l'entreprise Women Technology. Vous êtes également plus connu sous Madame Robot Roulage parce que vous êtes l'inventrice de Robot Roulage. Et voilà, si vous êtes intéressé par ce sujet, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle, le numéro d'appel c'est les 0 81 890 63 94 ou encore les 0 99 706 63 94. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net. Et comme toujours, nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Au Capi Service. Voilà, je me tourne vers mon premier invité, Charles Midailonga. Il est directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux et président de l'Ordre national des ingénieurs civils de la RDC. On va parler ingénierie. Lorsqu'on parle, on parle ingénierie, on passe à l'ingénieur. Dites-nous d'abord, c'est qui un ingénieur?
Un ingénieur, c'est un produit. J'ai voulu d'abord parler de l'ingénierie avant de parler de l'ingénieur, parce que l'ingénieur, c'est un acteur important qui est pris dans un processus qu'il faut plutôt d'abord commencer par définir, l'ingénierie. Et l'ingénierie, c'est quoi? C'est en fait la théorie, c'est la pratique qui vise à mettre en place, n'est-ce pas, à mettre en œuvre des connaissances scientifiques, des connaissances techniques, dans des secteurs particuliers. Ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans les infrastructures, ça peut être évidemment dans l'industrie extractive, ça peut être, en fait, de manière générale, c'est pour le développement de l'humanité. Et donc l'ingénieur, c'est un acteur de développement qui participe comme concepteur, il participe dans la réalisation des grands projets, et en mettant en place naturellement les meilleurs outils qui permettent à ce que ils puissent protéger les investissements à travers leur fiabilité, à travers leur sécurité, et en pensant naturellement sur le développement durable. Donc une grande économie, n'est-ce pas, sur l'environnement, sur la dynamique de l'écologie.
Alors, dites-nous, pourquoi une journée mondiale de l'ingénierie?
Ah, une journée mondiale parce que ça a été une interpellation notamment de l'ONU à travers l'UNESCO, pour que ce soit une journée à travers laquelle on interpelle les décideurs. On interpelle les gouvernements du monde, le gouvernement et les organisations non gouvernementales. On interpelle tout le monde pour une prise de conscience, n'est-ce pas, sur l'avenir du monde. Aujourd'hui, l'avenir du monde implique que nous tous, tous les acteurs, nous puissions penser à un équilibre des générations. Donc nous développer aujourd'hui envie, n'est-ce pas, de ne pas compliquer la gestion du monde demain. Et c'est surtout aussi nous mettre devant les vrais défis aujourd'hui auxquels le monde fait face. Les défis de développement sont énormes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la quatrième révolution industrielle. La révolution du numérique, n'est-ce pas, hein? Aujourd'hui, on a dépassé les trois premières révolutions et il faut penser à ce que le monde puisse vraiment percer les limites de l'imagination et penser à innover davantage pour créer de nouveaux produits, pour penser à amener les connaissances qu'il faut pour que la vie, l'être humain vive heureux. Voilà donc pourquoi il faut sensibiliser naturellement le monde entier, notamment sur l'avenir de la profession d'ingénieur, hein, pour que tout le monde sache, même les jeunes gens sachent, qu'il faut être ingénieur si vous voulez vivre heureux demain.
Donc, voilà, c'est ça. Voilà, avant de me tourner vers Madame Thérèse Kirangozi, parce que nous avons également dit dans ces domaines, il y a une sous-représentation des femmes, malgré l'importance de l'ingénierie, donc pour l'avenir du monde. Alors cette question, Monsieur Charles, mesdames, qu'est-ce qui fait que dans notre pays, les ingénieurs, en tout cas c'est les constats, hein, ont du mal à mettre leurs compétences, leur savoir-faire au service du pays? Vous avez parlé d'innovation, de la création de nouveaux produits, mais apparemment c'est pas le cas en RDC.
Non, pas seulement en RDC. De manière générale, la représentation donc du genre est assez faible à travers le monde. Donc en RDC, c'est beaucoup plus critique. Mais la vérité, c'est d'abord le nombre lui-même d'ingénieurs. Donc aujourd'hui, le monde souffre d'une véritable pénurie en ingénieurs. Et au Congo, c'est plus grave. Si aujourd'hui des pays comme la Grande-Bretagne arrivent à un standard de plus ou moins 1100, donc un ingénieur pour 1100 habitants, donc chez nous c'est une pénurie extraordinaire. Mais alors, maintenant, pour revenir sur la difficulté, l'implication des dames commence déjà à travers leur intégration à la petite école, à l'école secondaire, à l'école primaire. Déjà, on n'apprend pas à motiver les dames à pouvoir aimer les sciences, à aimer les mathématiques. C'est déjà une difficulté. Ce qui fait que rares sont ces jeunes filles qui savent trouver des modèles pour pouvoir leur ressembler. Donc ça pose naturellement une difficulté. Les quelques rares que vous trouvez des ingénieurs, c'est des gens qui ont bravé les difficultés de la société en se disant, je vais aller quand même tenter ce qui est difficile à faire. Donc la difficulté est d'abord d'ordre culturel. Le monde dans lequel nous vivons pense que pour la femme, c'est la facilité.
Voilà, vous avez dit les quelques rares femmes que nous avons, qui ont bravé les difficultés. Nous avons dans ces studios Madame Thérèse Kirangozi qui font donc partie de ces rares femmes ingénieures dans ce pays, l'inventrice du robot roulage aussi dans respirateur pour ce qui est de la Covid-19. Elle va en parler. Dites-nous, Madame, parlez-nous de votre expérience avant de parler de la place de l'ingénieur dans le développement d'une nation. Vous avez eu à braver ces difficultés d'être femme ingénieure.
Merci beaucoup de m'inviter à cette émission et je salue notre aîné. Alors, pour moi, il y avait des difficultés. On peut toujours connaître des difficultés dans tous les domaines de la vie. Et par contre, je peux plus parler de la motivation. De la motivation, pour moi, c'est d'abord dans nos familles. Moi, c'est mon père qui m'a beaucoup motivé pour aller faire les études des ingénieurs. Donc, moi, je propose que dans chaque famille, si nous-mêmes, les parents, nous cherchons plus à orienter, de parler de l'ingénierie, l'importance de l'ingénierie dans nos milieux, là où nous vivons, ça va motiver plus de jeunes filles. Parce que, je peux donner un exemple concret, ma mère n'était pas d'accord pour que tu es jolie, tu es lancée, tu es belle, aller tenir des huiles. Bon, vous voyez, à l'époque, l'ingénierie, ça ressemblait seulement à un mécanicien ou dans des domaines qu'il faut toucher de l'huile et consorts. Donc voilà. Mais mon père, il disait toujours que non, tu es l'aîné d'une famille, je veux que tu suives mon, comme, je vais être comme ton modèle, tu dois aller faire, parce que mon père avait fait aussi l'électromécanique, dans la même école, c'est l'Institut Technique Supérieur de l'ISTA, et que moi je suis allé faire l'électronique industrielle. Ben écoutez, ça fait 20 ans que j'ai fini à l'ISTA. À notre époque, il y avait, je peux pas dire, même pas 1% de femmes par rapport au nombre de jeunes garçons qui étaient là. Alors, le grand souci, c'est façon aussi la communauté arrive de ne pas encourager la technologie locale. Est-ce que nous tenons compte que nous avons de mêmes formules avec les étrangers? Je peux donner un exemple concret par rapport... à nos réalisations, comme vous venez de dire, après les études, on est motivé de dire que non, il faut appliquer. Comme notre aîné vient de dire tout à l'heure, nous devons appliquer la technologie. Les ingénieurs sont là, mais il faut regarder. Il y a des ingénieurs qui sont aujourd'hui transformés à être des changeurs de monnaie, à faire peu importe quel boulot qui est devant lui, parce que il y a un fossé, si je peux dire, entre la science et l'application de la science. Donc c'est ces fossés-là que nous devons faire l'effort de fermer un peu les trous, qu'un ingénieur, ce n'est pas seulement tu es à Polytech ou tu es à l'ISTA ou peu importe quelle école technique, pour finir après tu fais j'ai l'honneur en fait un technicien est là pour trouver des solutions. Des solutions par rapport à sa communauté. Je donne un exemple, le robot roulage, c'est un exemple concret que nous avons trouvé la solution par rapport aux embouteillages. Vous avez parlé des respirateurs mécaniques d'urgence que nous avons travaillé. C'est mon entreprise Women's Technology avec l'entreprise de Raissa Malou en consortium.
Qui est une femme physicienne bien connue. Hein,
bien sûr. Oui. Ok. Donc, avec Raissa Malou pour trouver la solution par rapport à tout ce qui est les équipements techniques dans nos hôpitaux qui fait défaut. Donc, pour nous, c'est question que l'État, nos autorités, comme on vient de dire tout à l'heure, c'est l'interpellation de nos autorités de comprendre que l'importance de l'ingénierie, pour moi, c'est la clé du développement de notre pays.
Excusez-moi, parce que vous avez parlé de l'implication des autorités, monsieur Charles Médard également l'a souligné. Alors, monsieur Charles Médard, vous avez comme l'impression qu'il faut de plus en plus que l'État s'implique davantage, parce que lorsque vous avez des ingénieurs, madame l'a dit, qui se mettent dans de boulot comme changeur de monnaie, apparemment, on n'utilise pas nos ressources comme il se doit, alors que tout le monde connaît bien la place de l'ingénieur pour le développement d'une nation.
Effectivement, vous savez, tous les pays qui émergent aujourd'hui, c'est des pays qui sont en train d'expérimenter l'utilisation qualitative et quantitative d'ingénieurs. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Hein, donc, l'explosion technique, économique de la Chine, de l'Inde, c'est exactement des exemples qu'il faut citer. Là, les décideurs ont compris qu'il faut mettre l'ingénieur dans son couloir, il faut l'utiliser, et quand vous l'utilisez à bon escient, il vous donne des solutions. C'est donc l'ingénieur, c'est la solution au problème de la société. Et c'est même ça l'origine de l'ingénium là. Donc ingénieur, ça veut dire c'est pour trouver des solutions aux problèmes de la société. Il faut une grande sensibilité des décideurs et des décideurs pour intégrer en même temps tous les scientifiques et en même temps ceux qui sont dans la pratique quotidienne, donc les ingénieurs. Et je crois que l'émergence est au prix de ça. Il faut absolument intégrer les ingénieurs dans la conception des plans de développement, dans la mise en œuvre de ces plans de développement, dans la conduite des grands projets de transformation. Sans ingénieurs, je ne vois pas d'issue. Hein, donc la vie sans ingénieurs n'a pas d'issue. Il n'y a pas de lendemain, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas d'amélioration.
Voilà, on revient à vous, Monsieur Charles Médard Ilonga, également Madame Thérèse Kirongos, et on fait signe également à notre invité en ligne, Michel Ouyumbu, qui est président de la coopération des ingénieurs BTP. Vous êtes en ligne, ingénieur Michel Ouyumbu?
Oui, je suis en ligne, M. Marché.
Alors, comme j'ai posé la question à nos deux invités qui sont dans ce studio, et également, je vous repose la même question. Donc, vous pensez qu'il est grand temps dans ce pays que l'État congolais puisse s'impliquer pour qu'on arrive vraiment à utiliser les ressources que nous avons avec nos ingénieurs pour arriver à développer le pays?
Merci beaucoup, M. Marché. Monsieur de nous avoir associé à ce débat, combien important pour les ingénieurs que nous sommes.
Oui.
Je suis totalement d'accord avec mes deux prédécesseurs que je salue en passant, le DG Charles Médard Ilunga et l'ingénieur Kiron Grossi, qui est d'ailleurs quelqu'un que nous avons honoré lors de la cérémonie de remise du diplôme d'honneur et de mérite. L'ingénieur Kiron Grossi, qui a mis sur pied, comme vous l'avez dit, le robot roulant, a été honoré par un diplôme d'honneur. Ceci étant dit, je suis totalement d'accord avec mes deux prédécesseurs, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer une société dans laquelle vous n'avez pas d'ingénieur. Aujourd'hui, s'il y a longtemps, l'ingénierie a commencé dans l'industrie lourde, s'est développée dans l'électricité, l'électromécanique, et ainsi de suite, a continué dans le génie civil et les différentes filières de génie. Mais aujourd'hui, il est totalement incroyable de voir la diversité de filières dans lesquelles les ingénieurs peuvent démontrer leurs compétences. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer la médecine sans l'ingénierie. Vous ne pouvez pas vous imaginer tous les grands projets d'exploitation agricole sans l'ingénierie. Vous ne pouvez pas vous imaginer un projet de développement d'une manière particulière sans l'ingénierie. Donc, il est totalement important que les ingénieurs que nous sommes, nous puissions être associés à tous les projets et à toutes les initiatives du développement. Malheureusement, pour notre pays, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'autorité a assez de matière grise qu'elle n'est pas prête d'utiliser qualitativement et quantitativement. Et cela fait que nous sommes en train de tourner en rond sur certaines questions auxquelles les ingénieurs peuvent apporter leur contribution et leur contribution de manière efficace et durable.
Voilà, Michel Ouimbou, je rêvais également à vous. On vous regarde en ligne pour ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de la place de l'ingénierie dans les développements de la nation congolaise à marge de la journée du 4 mars. Donc demain qui est la journée mondiale de l'ingénierie. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à composer les 081-899-6394 ou encore les 099-706-6394.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous avons déjà deux auditeurs en ligne qui nous appellent de Kinshasa. Ingénieur, bienvenue. Monsieur Gaston, ingénieur, bienvenue. Bonjour.
Bonjour, Marcel. Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, je vais abonner dans le même sens avec les conseils qui sont dans votre studio. Je pense la profession d'ingénieur, aujourd'hui, nous sommes victimes des autorités qui nous dirigent. On ne sait pas accorder une importance ou une valeur au métier des ingénieurs. Je prends, par exemple, tous les grands travaux qui sont dirigés dans notre pays. On utilise les ingénieurs congolais comme étant des aides de ceux qui viennent à l'extérieur. Peut-être que ces gens-là ne disposent pas de l'expérience ou la technicité plus que nous autres. Moi, je suis ingénieur agronome. Je prends un exemple. Les grands projets à l'époque du président Kabila Bukangalonzo. On élabore un projet au Congo, mais l'exécution, c'est une entreprise sud-africaine qui le fait. Or, que nous savons bien, dans les domaines agricoles que nous évoluons, il y a trop d'éthiques là-dessus. Il y a les conditions climatiques, il y a les conditions pédologiques qu'il faut les autochtones puissent analyser. On nous importe les ingénieurs qui sont venus de l'Afrique du Sud. La réalité, tous nous savons. On voit dans les BTP, on voit dans tous les domaines. Or, aujourd'hui, vous voyez même la perception de la population congolaise par rapport à notre institution, l'ISTA, qui forme des ingénieurs. On se dit l'ISTA, c'est une institution de voyous, l'ISTA, c'est ici, c'est là, mais nous avons vu ce que les ressortissants de l'ISTA ont produit pendant la COVID-19. Donc, ce que je peux faire ici, c'est interpeller nos autorités de redonner cette valeur dans notre métier d'ingénieur. On est capable de tout faire pour améliorer notre pays. Voilà, je souhaite une bonne fête à tous les ingénieurs congolais.
Merci, ingénieur. Bienvenue d'avoir appelé de Kinshasa. Gaston, vous êtes également à Kinshasa. Bonjour, Gaston.
Bonjour, Marcel.
On vous écoute, Gaston.
Bon, les techniciens qui devraient, à mon avis, accompagner dans tous les domaines, dans le sens d'appliquer, hein, c'est les techniques qui sont prévues, hein, les ingénieurs congolais. Mais à mon avis, ne font pas innover les choses.
Oui.
Ne font pas innover les choses. Et même s'ils appliquaient les techniques, parce que il faut faire aussi la différence. Je voulais un peu demander à l'invité, hein, les architectes, les concepteurs, les techniques que les ingénieurs sont censés appliquer. Et au niveau de notre pays, il existe réellement des techniques proprement congolaises que nos ingénieurs sont censés appliquer, ou soit ils essayent à tout moment appliquer les techniques qui viennent.
Qui viennent d'ailleurs, voilà. S'il y a la technologie locale, c'est ce que vous voulez savoir.
Oui, parce que je peux prendre l'exemple du domaine de la construction. Hein.
Oui.
Nous avons des architectes. Des architectes qui conçoivent et les ingénieurs appliquent. Et les conceptions des architectes avec les maîtres maçons, tout ce qu'on sait. Mais nous avons pu constater que dans des grands ouvrages, ce sont des conceptions extérieures qui sont d'ailleurs appliquées par les ingénieurs extérieurs et peut-être aussi accompagnées de nos ingénieurs mais qui n'ont pas la qualité en soi d'ingénieur. C'est pour ça que nous nous posons la question actuellement. Nos ingénieurs sont où? Ils sont juste dans des applications de certaines maisons de particuliers où on voit, vous irez n'importe qui trouver un ingénieur qui applique la conception de n'importe quel architecte qui peut-être aussi ne tiennent pas debout, mais ils essaient un peu. Mais dans les grands ouvrages de notre pays, on ne sait pas trouver les ingénieurs qui ont la qualité d'ingénieur et qui. Et de là, je voulais un peu demander à nos gens qui nous disent quelle œuvre grandiose qu'on peut imputer à un architecte ou soit à un ingénieur congolais dans les œuvres qui sont réalisées depuis 2008, des maisons, de grandes maisons qui sont construites, la construction de quel congolais, surtout l'application aussi de quel ingénieur congolais, et surtout la main d'œuvre. Ça pouvait aussi servir d'exemple, mais jusque-là, je vois que non, il n'y a pas un grand effort sur ce plan-là.
Voilà, nous n'avons pas avec nous un architecte, hein, mais de toutes les façons, on a compris. On a compris votre question. Alors, je me tourne vers M. Charles Médard, qui est président de l'Ordre national des ingénieurs civils, qui est également directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Vous avez suivi, il y a un des auditeurs qui a parlé d'une sous-utilisation des ingénieurs que nous avons sur place au profit des ingénieurs qui viennent de l'étranger. Et puis l'autre a posé la question de savoir si, à notre niveau, nous faisons aussi des fois recours à nos technologies locales, bien on essaie toujours de copier ce qui vient d'ailleurs.
Non, je crois que il y a à prendre un peu l'aspect compétence.
Oui.
Je crois qu'il a parfaitement raison. Nous sommes tous préoccupés par la compétence de l'ingénieur congolais.
Oui.
Et pour parler particulièrement de l'agence des grands travaux, je crois que je suis très satisfait, j'ai toujours dit, très satisfait aujourd'hui d'avoir les experts, les architectes, les ingénieurs parmi les meilleurs du pays. Et je crois que nous essayons de mettre un accent sur l'importance du capital humain, et nous sommes convaincus que ces ingénieurs sont capables de tous les meilleurs ouvrages. La preuve, c'est que nous recevons de temps en temps des commandes qui nous viennent de l'extérieur. Hein, aujourd'hui, par exemple, nous devons intervenir à Calémie pour le compte d'une entreprise française. Et donc, ça veut dire que nous, en tant qu'ingénieurs congolais, nous avons tous les atouts possibles. Donc, nous n'avons pas de complexes du tout du point de vue des compétences. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut davantage d'efforts pour se rassurer que les enseignements se déroulent dans les meilleures conditions. Nous avons eu nous-mêmes à faire beaucoup d'enquêtes sur le terrain pour réaliser qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qu'il faut consentir, parce que on ne devient pas ingénieur comme ça au hasard. L'ingénieur, c'est le produit de la rigueur, c'est le produit d'une mobilisation des ressources, et il faut absolument que les textes et tout puissent tout faire pour encadrer l'exercice de la profession. Et c'est comme ça que l'État, déjà en décembre 2018, a créé la loi, l'ONICIV, hein, qui déjà permet d'encadrer l'exercice de la profession d'ingénieur civil. Et nous, nous avons contacté notamment le président de l'Assemblée nationale, de la part du Sénat particulièrement, pour lui démontrer la nécessité à ce que tous les ingénieurs du pays, vous voyez, Madame Kilongozi qui parle, hein, vous avez mis en exergue ses compétences. Donc nous avons besoin que les ingénieurs de l'ISTA, les ingénieurs de l'INBTP, qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs ingénieurs du pays, nous avons besoin de fédérer nos énergies, nous tous. Tous les ingénieurs du pays doivent se mettre ensemble dans une grande fédération des autres ingénieurs. Donc il faudrait que tous, et c'est à ces prix seulement qu'il y aura un meilleur encadrement. Les artisans, eh ben, on va les mettre de côté. Parce que de temps en temps, on a l'habitude de confondre ingénieurs et des artisans. Les ingénieurs ont la connaissance qu'il faut. Ils sont férus d'outils qu'il faut pour pouvoir concevoir, pour pouvoir réaliser. Et la réalisation, ce n'est pas une œuvre hein, qu'il faut sous-estimer. Donc la réalisation recourt à beaucoup de ressources intellectuelles. Donc l'ingénieur, c'est comme on dit, donc celui qui est ingénieur est appelé à apporter les meilleures solutions, l'économie. Un même ouvrage, lorsque vous le demandez à celui qui est ingénieur, celui qui n'est pas ingénieur, vous aurez des résultats tout à fait différents. L'ingénieur vise l'optimisation des ressources. Il faut utiliser moins de ressources, mais plus de sécurité. Donc l'ingénieur congolais a sa place, mais simplement nous disons qu'il faut l'encadrer. Il faut aujourd'hui encadrer l'exercice de la profession et nous pensons qu'il faut des accréditations, il faut des comités d'accréditation pour réellement accréditer le programme d'enseignement. Ça, c'est aussi très important.
Donc là, vous assistez au niveau de l'Agence congolaise de grands travaux. Vous travaillez avec des ingénieurs congolais bien formés, compétents.
En tout cas, nous utilisons des ingénieurs congolais très compétents et nous sommes conscients de ce qu'ils apportent comme résultat. Et ne vous en faites pas. Tous ces gens qui viennent et qui disent qu'ils ont des propositions techniques et autres, très souvent, ils ne recourent qu'à des ingénieurs congolais. Hein? Aujourd'hui, dans l'industrie extractive, c'est la même question. Donc les gens qui viennent, généralement, c'est des gens qui viennent s'appuyer sur les données qu'ils reçoivent des ingénieurs congolais et ils ont toutes les solutions des ingénieurs congolais. Ah, ils font de la compilation pure et simple.
Ah, ça c'est très bien. Alors, Madame Thérèse Kirongozi, on a parlé des innovations. Ah, bon, d'accord, vous avez oublié de former votre téléphone, ça va être fait. Pour ceux qui viennent encore de se joindre à nous, je rappelle que nous parlons de la place de l'ingénierie dans le développement de la nation congolaise sur la marche de la journée de demain, 4 mars 2022, qui est la journée mondiale de l'ingénierie. Nous avons sur ce plateau à Monsieur Charles Midari Longa, directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, également président de l'ONICIV, c'est l'Ordre national des ingénieurs civils de la RDC, également l'ingénieur Thérèse Kirongozi, promoteur de l'entreprise Women Technology. Nous avons aussi en ligne Michel Oyumbu, président de la coopération des ingénieurs BTP en ligne. Enfin, BTP, voilà, lui, il est en ligne. Bon, Madame Thérèse, je reviens à vous. On a parlé des technologies locales et on peut prendre votre exemple parce qu'on a l'un des trucs qui a demandé est-ce que nous avons des technologies locales chez nous ici.
Mais bien sûr, on a beaucoup. Peut-être, il faut savoir une chose, qu'il y a beaucoup des ingénieurs qui restent dans l'ombre. Ils font beaucoup de... En fait, ils nous donnent beaucoup de solutions, mais nous ne sommes pas, en fait, les ingénieurs. En fait, chacun va faire son boulot. C'est-à-dire, nous sommes là pour arriver à trouver des solutions, mais nous ne sommes pas des grands communicateurs pour toujours passer peut-être devant des écrans ou des radios pour parler de nos réalisations. Ben, on doit savoir une seule chose. Là, je réponds à cet auditeur pour savoir que non, notre pays va se développer avec notre propre technologie. Nous devons pas toujours, bon, il y a des technologies que nous devons importer des autres. Mais si les freins d'aujourd'hui, vous allez voir dans tous les domaines, comme notre aîné vient de dire, dans tous les domaines possibles. Aujourd'hui, nous avons des minerais. Parce que, les géants du minerai, ils ont fait que la technologie soit quelque chose qui doit coûter trop cher pour vous faire même peur comment je peux entrer dans ce domaine pour faire la transformation de nos matières premières. Et tout le monde se freine par rapport à cela. Mais or que nous pouvons nous-mêmes créer notre propre technologie locale. Je donne toujours un exemple. Quand il y avait Covid, et tout le monde disait que même si vous touchez des plastiques, des métaux, vous serez contaminé avec la Covid. Mais nous, au moins, on a trouvé une solution. On a dit, ben, maintenant, on va toucher quoi? Alors, il faut automatiser les systèmes. Et jusqu'aujourd'hui, si vous passez dans les grands hôpitaux, de la clinique universitaire à Saint-Joseph et sino-congolaise, hôpital référence de Kinkolé, vous allez voir que nous avons mis à disposition des robinets que au moins 1000 personnes peuvent faire des nettoyages en main sans toucher à quelque chose. Donc nous devons savoir que nous les ingénieurs, c'est-à-dire quels sont nos problèmes. Aujourd'hui, nous sommes face dans des chômages des jeunes. Vous remarquez, aujourd'hui nous parlons plus de chômage des jeunes surtout dans des grandes villes urbaines comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma. C'est-à-dire, ça je fais partie, étant donné que je fais partie de 25 femmes qui voient le président, que le président nous a nommé des femmes d'exception, j'ai proposé même au président de la République, pour diminuer du chômage des jeunes, c'est-à-dire de créer des camps de PME, de petites et moyennes entreprises, là où il y a les ingénieurs. On vient de parler, il y a une différence entre les ingénieurs et les artisans. Mais moi je crois que c'est nous les ingénieurs qui doivent aider les artisans. Je prends un exemple concret. Quand vous partez en Gili, au quartier 1, vous allez voir, il y a plus de 2000 jeunes qui sont là dans l'ingénierie de l'automobile. Ils se réveillent un matin comme ça, manque d'emploi, et ils touchent du tournevis, ils arrivent à faire quelque chose. Mais il manque tout ce qui est comme encadrement. Il manque tout ce qui est comme outillage. Aujourd'hui, on doit savoir que tant que le monde existe, l'industrie, tout ce qui est lié dans la technologie de l'automobile, ça va toujours continuer à exister. Mais ces jeunes-là doivent encadrer. Ces jeunes-là, c'est une richesse. Ils ne demandent pas à l'État de trouver un emploi pour eux. Mais rien que ce qu'ils ont comme l'ingénierie. Parce qu'il faut savoir aussi, il y a l'ingénierie innée. Que les jeunes sont nés comme ça, ils sont dans l'ingéniosité comme pas possible. Ce sont des jeunes-là, il faut aussi encadrer. Et c'est ça qui va aussi diminuer du chômage et créer aussi de la richesse. Donc l'État, c'est notre gouvernement de savoir capitaliser. Je donne encore un exemple. Si vous allez vers Delvaux, vous allez voir des jeunes qui ont l'ingéniosité de nous fabriquer des chaises, des tables, des meubles. Mais il faut que l'État arrive à capitaliser cela. Comment rendre cela quelque chose dont c'est l'ingéniosité locale. Donc, on doit se donner par rapport à l'ingéniosité locale.
Est-ce que l'État encourage la technologie locale? Prenons votre propre cas pour ce qui est de robots roulage, mineurs et respirateurs. Est-ce que l'État encourage?
Mais il faut voir seulement le déploiement de nos machines. Est-ce que nous sommes encouragés à 100%? Est-ce qu'on a encore des problèmes? Ça, je laisse à vous, les journalistes, de faire le constat. Est-ce qu'on croit d'abord à notre technologie? J'étais chez quelqu'un qui m'a promis, non, vos feux de signalisation, ça marche ou ça marche pas, mais on préfère peut-être importer ailleurs. Mais vous avez vos propres ingénieurs ici. Si nous partons peut-être, on prend le modèle du Japon, prenons seulement des véhicules japonais comme Mitsubishi. Je vous dis, en 1980, personne peut-être voulait acheter. Mais aujourd'hui, si vous parlez à ça, pourquoi? Parce que le pays a donné le moyen, le pays a encouragé cette technologie locale. Tout ce que nous avons besoin, que nos dirigeants, nos compatriotes, nos aînés arrivent à encourager la technologie locale. Donc, si moi je me pointe devant vous avec un Chinois, je préfère que vous me preniez. Même si je ne le ferai pas à 100%, c'est comme ça que je dois apprendre. Parce que c'est cette technologie qui va rester et qui va se pérenniser pour le pays.
On va accorder la parole à deux autres auditeurs qui sont en ligne. Et puis on va retrouver également notre invité qui est en ligne, Michel Oyumbu. Nous avons un Pierrot qui nous appelle de Lubumbashi, Malonga, qui est à Bandundouville. Pierrot, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Pierrot.
Bonjour à tous les invités qui sont dans les studios et à vous. Je m'appelle Pierron Pagnan. D'abord, je commence à les souhaiter un heureux anniversaire de leur jour qui sera le 4 mars. Après, je vais parler aussi de deux volets. Le premier volet, ça concerne les ingénieurs eux-mêmes. Le deuxième concerne nos dirigeants dans ce pays ici. Je commence avec les ingénieurs. Est-ce que vous ne trouvez pas que les ingénieurs travaillent à l'ordre dispersé? C'est pourquoi ils ne sont pas considérés même par l'État congolais, parce que l'État congolais, j'ai constaté qu'il profite du désordre dans telle ou telle structure pour qu'elle profite. Parce que quand nous avons vu, on a trouvé que, prenez par exemple, nous avons des bons des ingénieurs qui sont très qualifiés et qui nous font des bons travails. Mais on constate que peu sont sérieux. Ce que je dis, c'est quoi? Vous pouvez donner à un ingénieur un projet pour qu'il vous fasse le calcul et tout ce qu'il peut faire pour qu'il vous donne ce que vous avez besoin. Mais il vous dit que non, donnez-moi les moyens, dans 6 mois, je vais vous remettre ce que vous avez demandé. Mais vous le versez l'argent, il va passer ces 6 millions que vous versez, lui va dépenser peut-être 1 million, et le reste, il va, et le projet ne termine pas. Or, on dit que construire sans terminer, c'est détruire. Aujourd'hui, on peut dire de la dame qui a fait, vous citez toujours la dame qui a fait le robot roulage intellectuel. Elle est où? Cette structure-là, les gens qui l'avaient de ces temps-là, vivent comment aujourd'hui? Parce que vous parlez à tout moment de cette dame-là. Maintenant, si l'État a manqué, comment protéger cette maman-là? Alors, elle aussi à son côté. Comment elle a encadré les autres qui l'aidaient à faire ce travail, parce que c'était un travail d'équipe. Alors, est-ce qu'ils ne peuvent pas d'abord nous dire, eux, les ingénieurs, qu'ils fassent un ordre des ingénieurs, eux, qu'ils puissent se distinguer chaque domaine et nous donner aussi ce que nous pouvons espérer et commencer à le respecter comme nous respectons les médecins qui ont leur ordre, d'autres choses, les avocats et autres domaines. Concernant
les dirigeants, allez-y rapidement, les dirigeants, oui, rapidement, Pierrot.
Oui. Nous constatons que nous avons hérité une mauvaise politique. Cette mauvaise politique, c'était quoi? C'est d'abord, dès que vous êtes dirigeant politique, vous commencez par vos enfants. Et regardez la plupart des ministères. Regardez des ambassades. Vous trouverez que P sont des ambassades, des ambassadeurs de formation qui ont fait ce qui ont comme profession d'ambassade et d'ambassadeur plutôt. Ils ont pris d'ambassadeurs politiques.
Pierrot, restons dans les sujets. Nous parlons de l'ingénierie, nous parlons des ingénieurs. Donne des exemples, oui. En citant les ingénieurs. Là, on restera dans le sujet. Allez-y rapidement, Pierrot. Vous avez déjà pris beaucoup de temps.
Oui, c'est ça que, je voulais enchaîner pour dire que oui. Si vous regardez aujourd'hui, vous trouverez que il y a des années antérieures ici, vous trouverez que même dans les ministères où on pouvait parler de recherche scientifique, des ingénieurs, de telles choses, on ne mettait pas des gens qualifiés pour ce travail-là. Oui. On met quelqu'un comme ministre là-bas, mais après, le ministre-là vous dit que domaine où ma personne na Monique na Zana idée mon côté. Ça c'est du n'importe quoi.
Merci Pierrot, on a compris l'essentiel de votre propos. Malonga, vous êtes à Bandouville. Bonjour Malonga.
Oui, bonjour Marcel et bonjour à notre invité que j'aime beaucoup ce commentaire là-bas. Il me précède déjà de ce que j'avais dit. C'est ce que j'ai à dire. Bon, Marcel, un ingénieur, c'est celui qui invente, c'est celui qui crée, oui. C'est celui qui innove dans la société. Mais ce que l'invité a dit vraiment, je la félicite. Puisque tous se logent autour des dirigeants, des gouvernants. On voit aujourd'hui, il y a des primes des ingénieurs. Un ingénieur, par exemple, agronome. Puisqu'il y a plusieurs formes d'ingénieurs. Ingénieur agronome, ingénieur en maçonnerie, ingénieur en chaussée, ingénieur, c'est cela. Moi, je m'abase d'abord sur l'ingénieur agronome. Il y a des primes qu'on offre. Mais le dirigeant confisque ces primes des ingénieurs pour donner à leurs enfants ou bien ailleurs. Donc, c'est cet ingénieur qui a étudié, qui est vraiment doué des idées pour innover le milieu où il habite. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va être bien équipé, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, ils sont délaissés comme ça. Alors, ce que moi je vais proposer à Marcel, qu'on recense tous les ingénieurs. Vous voyez notre pays recule comme ça. Hein? C'est comme si, je vais me rappeler à notre ingénieur ici, de Natif, ingénieur Moutima, hein? Le peuple du de l'Office des routes. Ce que nous avons entendu, il avait dit que comment est-ce que nous allons toujours inciter les ingénieurs d'ailleurs pour aller réhabiliter nos routes. Et nous-mêmes, nous avons libre de pays-ci. Il est chaque année l'impression des ingénieurs. Mais ces ingénieurs, ça, ils feront quoi? Mais j'avais entendu qu'il était mal fait. Or, il avait déclaré ce qu'il faut.
il faut faire travailler nos ingénieurs. Nos ingénieurs sont des chômeurs, ils n'ont pas de service.
Merci.
Le pays sollicite les ingénieurs d'ailleurs.
Merci. Voilà. Merci Malonga d'avoir appelé de Bandou de Ville. Alors, Michel Oyumbu, vous avez suivi. Il y a Pierrot qui a dit que vous travaillez en ordre dispersé. Vous, vous êtes président de la coopération des ingénieurs BTP. Et il y a également un autre auditeur qui a dit que il faudra recenser les ingénieurs. Michel Oyumbu.
Merci beaucoup, monsieur Marcel. Je pense que nos amis ont totalement raison. Et à partir du moment où l'union fait la force, nous nous plaidons pour cette unité des ingénieurs d'abord. Parce que aujourd'hui, au pays, l'État congolais a la même considération ou la même sous-considération des ingénieurs formés au pays et qui sont des citoyens du pays. Vous pouvez vous imaginer qu'on peut enterrer avec honneur quelqu'un parce qu'il a fait de la comédie toute sa vie, je n'ai rien contre ça, ou il a fait de la musique toute sa vie, mais l'État ne s'est jamais préoccupé pour enterrer avec quelqu'un qui a conçu des ponts toute sa vie dans ce pays. Et c'est pour dire que, quelque part, nous avons nous-mêmes un travail de lobbying à faire, mais ce lobbying ne peut se faire que si nous sommes dans une véritable union où nous nous regroupons nous-mêmes et nous essayons d'analyser d'abord le problème qui est chez nous et nous essayons de proposer des solutions à l'autorité. Donc, cette unité, elle est très capitale, elle est très, très fondamentale d'ailleurs, pour que les uns et les autres puissent nous prendre beaucoup plus au sérieux.
Alors, vous êtes président de la coopération des ingénieurs BTP. Vous avez une idée du nombre des ingénieurs BTP. BTP, c'est bâtiment et travaux publics, c'est bien ça?
Oui, bâtiment et travaux.
Alors, vous avez une idée du nombre des ingénieurs BTP ici en RDC?
Oui, j'ai une idée sur le nombre, sans compter ceux qui sont morts. Nous tournons autour de 4 à 5 000 ingénieurs BTP. Évidemment, il y a beaucoup qui ont quitté le pays pour aller chercher mieux ailleurs, dans les pays africains, en Europe et partout dans le monde. Mais nous tournons autour de 4 à 5 000 ingénieurs BTP formés au pays, dont un peu plus de 8%. Et il faut enlever à cela 10 à 15% de ceux qui sont morts et enlever aussi 10 à 15% de ceux qui sont à l'extérieur du pays.
Voilà. Alors, Charles Ilunga Midar, vous êtes président de l'UNICIV, l'Ordre national des ingénieurs civils ici en RDC. Est-ce qu'on peut nous dire, comment ça travaille cet ordre? Parce que là, quand on dit vous travaillez en ordre dispersé, alors qu'il y a un ordre national qui existe. Et comment travaille cet ordre? Et puis, depuis que cet ordre existe, qu'est-ce qui a changé?
Non, je crois que j'ai soulevé là la nécessité à ce que nous puissions fédérer nous tous.
Oui.
Et que nous puissions fédérer dans un grand groupement qu'on appellerait la Fédération des ordres des ingénieurs et des scientifiques congolais. Je pense que ça ferait œuvre utile. Et déjà nous avons déjà marqué le pas en étant un ordre des ingénieurs civils. Et là, je vous dis que ça fait plus ou moins toutes les facultés polytechniques jusqu'aujourd'hui, on est autour de 3500 ingénieurs civils seulement formés. C'est là que je parlais des pénuries d'ingénieurs dans notre pays. Je crois que là, Michel venait de donner des statistiques en ce qui concerne les ingénieurs BTP. Et je crois que...
On sent également les chiffres, on est très bas
aussi. Les ingénieurs des LISTA. Et je pense que vous allez voir que c'est faible pour un pays comme la RDC. Alors, moi, je crois qu'il y a un sérieux problème de visibilité du travail d'ingénieurs. Et c'est vrai que la population a besoin de voir ce qu'est l'ingénieur. Mais la population ne sait pas exactement quelles sont les compétences que ces ingénieurs dont ils disposent. Donc, ce sont des vrais atouts à la disposition du pays. Et voilà pourquoi il est important que cet inventaire exhaustif soit fait pour que les autorités soient suffisamment informées de tous les efforts que la nation a investis pour arriver à former, à produire ses ingénieurs et se rendre compte des défis. Aujourd'hui, le monde est fait face à des défis. Aujourd'hui, on parle du changement climatique. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, en RDC par exemple, pour que nous ayons des outils pour pouvoir nous prémunir contre ce changement climatique? Les inondations, la montée des eaux, on a déjà des catastrophes qu'on a enregistrées durant ces quelques années passées. Il faut que nous puissions nous mettre en avance par rapport à la gestion des données pour que nous puissions savoir prédire comme les autres prédire ce que ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. Eh bien, sinon, eh bien, nous allons vers 2030, et vous savez qu'il y a des défis hein, pour 2030, l'émergence pour 2030. Nous devons donc, nous aussi, nous insérer dans ce qu'on appelle les objectifs du millénaire. Oui, donc les 17 objectifs qui ont été définis par l'ONU et qui sont importants pour la pratique du génie. Donc je pense que quand on prend conscience qu'il y a des objectifs, il faut des ingénieurs compétents. En tout cas, on doit absolument aujourd'hui décider de pouvoir les utiliser et les utiliser comme des vrais décideurs.
Oui.
En fait, les ingénieurs doivent aider, participer dans les débats publics. On discute des questions liées à l'avenir, par exemple, du numérique, à l'avenir de l'énergie, à l'avenir minier, dans tous ces secteurs. Mais vous allez voir, généralement, ce ne sont pas des ingénieurs qui se présentent en avance. Donc, c'est difficile.
Et ça pose problème.
Eh bien, ça pose problème, oui. Naturellement. Donc, on ne peut pas définir les schémas pour que ceux qui ont qualité pour définir le schéma viennent simplement constater. Il faut les impliquer à tous les niveaux. Donc, il y a un sérieux problème d'implication. Il faut considérer aujourd'hui l'ingénieur comme étant un véritable partenaire, indispensable, sans lequel il n'y a pas du tout de développement, sans lequel les projets ne seront jamais efficients, sans lequel on ne va jamais, n'est-ce pas, développer notre pays comme on le veut, comme tous les autres pays.
Et comme pour ce qui est de tous les domaines de la vie, on parle également de l'ingénierie pour un développement durable dans tout ce qu'on apporte comme innovation, et il faut penser aux générations futures.
Mais justement, vous savez, aujourd'hui, on parle de la ville de l'avenir. De plus en plus, la population a tendance à aller vivre dans les villes. Mais c'est pour quelle vie? Parce que tout, c'est d'arriver à travailler pour le bien-être de la population. Donc on parle de la ville de demain. La ville qui tient et dans laquelle il y aura beaucoup de gens qui vivront. Comment les déchets sont organisés? Comment l'accès à l'eau est organisé? Mais je crois que à Kinshasa, nous savons dire combien nous vivons l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie et toutes ces questions. Donc, et c'est des questions sur lesquelles nous devons réfléchir pour 2030, pour 2040, 2050 et consorts.
Voilà, Madame Thérèse Kirongozi, on va finir avec vous par rapport à cette activité pour la journée de demain, 4 mars, qui est la journée mondiale de l'ingénierie, avec le respirateur qui va être présenté au public. Ça, c'est vraiment votre façon, en tant qu'ingénieur, de contribuer. Vous avez dit en partenariat avec Madame Raissa Malou, qui est une physicienne, vous avez mis en place ce respirateur dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 pour ce qui est des infections graves ou des gens ont des problèmes de respiration.
Tout à fait. En fait, pas nécessairement par rapport à la pandémie de COVID,
oui.
Mais l'information, ça nous a quand même tenu par rapport à cette période pour dire que, ben, écoutez, quand vous, nos informateurs, nous avez dit dans tout le pays, nous avons que moins de 50 respirateurs, ça dérangeait quand même tout le monde. En fait, si nous parlons des respirateurs made in Congo, en fait, c'est pas seulement moi et Raissa Malou, c'est toute une équipe qui est derrière nous. Il y a des ingénieurs de l'ISTA qui sont là. Il y a aussi d'autres médecins qui nous ont aidés parce qu'il faut savoir une chose. En fait, ce respirateur, c'est une ventilation mécanique intelligente que nous avons travaillé cela pour les utilisateurs. Nos utilisateurs de cette machine que nous avons fabriquée, c'est la toute première, si je peux dire, la toute première en Afrique subsaharienne que nous-mêmes, comme on vient de dire tout à l'heure, d'arriver à comprendre nos soucis. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est respirateur, ça vient de l'étranger. Moi, je remercie aussi beaucoup de jeunes dès le départ de l'information de la pandémie. Beaucoup de jeunes se sont quand même débrouillés pour arriver à fabriquer des respirateurs. Bon, ils se sont arrêtés là où ils pouvaient s'arrêter. Des recherches, c'est toujours comme ça. Mais nous avons approfondi. Parce que quand on fabrique un équipement pour un laboratoire, il faut d'abord aller chez les laboratoires en question, oui. Pour savoir est-ce que ce que nous avons fait, ça correspond à ce que vous attendez de nous. Ce sont des médecins comme Dr Mbouyi Wakashina, il est de l'hôpital de Mokolé. Il y a le Dr Chilolo, il y a aussi clinique universitaire avec leur médecin directeur et d'autres réanimateurs anesthésistes qui nous ont beaucoup aidés, qu'ils ont fait des critiques pour qu'on arrive aujourd'hui à voir nos propres respirateurs made in Congo.
Et qui sera présenté demain
au public. Mais le grand souci, il faut savoir quels sont les avantages, parce que les respirateurs existent. Voilà pourquoi on dit la fabrication, on ne dit pas l'invention. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les respirateurs qu'on nous amène ici, ça fonctionne avec 220 volts. On a des problèmes si quelqu'un est au fin fond avec tout ce que nous avons comme des défauts d'électricité chez nous, qu'on arrive à lui donner, si il a des problèmes de détresse respiratoire ou les infections respiratoires, arriver quand même à sauver sa vie. Mais aujourd'hui, nous l'avons fait jusqu'à 5 volts et 2 ampères. Donc, avec une petite batterie même de 10 ampères ou avec un panneau solaire de 15 watts crête, vous pouvez déjà sauver une vie. Alors, ce que le médecin demandait, c'est plus c'est de contrôler du volume, contrôler du fréquence, de contrôler tout ce qu'ils en avaient besoin. Et nous sommes arrivés, après 2 ans de recherche, avec toute une équipe, arrivés à donner des satisfactions à nos médecins qui seront les utilisateurs de ces produits. Made in Congo.
Voilà, on va revenir sur les performances de ces respirateurs dans une prochaine émission. Alors, quand vous avez à ce moment la parole, un message pour la journée mondiale de l'ingénierie demain à 30 secondes.
Écoutez, pour moi, je dis d'abord bonne fête à tous les ingénieurs et nous devons croire à nous et nous demandons aussi à nos dirigeants de croire à la technologie locale. Je vous remercie.
Voilà, merci à vous, à Madame Thérèse Kirongozi. Nous rappelons que vous êtes promoteur de l'entreprise Women Technology. Alors, Michel Oyumbu, vous êtes en ligne. Vous également, un message en 30 secondes à l'occasion de demain, la journée mondiale de l'ingénierie. Rapidement, 30 secondes.
Oui, le message est que face à tout ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo,
oui,
l'ingénieur doit se forger une place de par lui-même.
Oui.
Vous savez, dans ces genres de...
En 30 secondes, vous n'avez pas assez de temps. En 30 secondes,
oui. L'ingénieur doit faire un effort pour prendre part au débat public.
Oui.
Il n'est pas seulement un acteur essentiel du développement, il est un acteur incontournable du développement.
Voilà, merci. Donc, Michel Oyumbu. Vous n'avez pas assez de temps. Je rappelle, vous êtes président de la Corporation des ingénieurs BTP. Également, Charles Midari-Lunga, votre conclusion par rapport à un message pour la journée de demain, journée mondiale de l'ingénierie.
Oui, par rapport à cette journée, nous sommes, nous, on y suit, invités, et donc nous participons à la Fédération mondiale qui organise un haut sommet sur l'ingénierie de développement, et nous avons des ingénieurs qui vont y participer, et je crois que nous aurons beaucoup de résolutions à pouvoir transmettre aux autorités du pays.
Voilà, merci Charles Midari-Lunga, directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux et président de l'UNICIV, Ordre national des ingénieurs civils du Congo. Merci d'avoir été de notre en vous. On espère vous retrouver prochainement.